Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin dont voici tout de suite les titres. Le ministre de la Santé et les syndicats de médecins tchèques n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente. La majorité des touristes tchèques bientôt de retour d'Égypte. Et puis, selon l'agence France Presse, la France et la République tchèque sont accusés de confondre énergie renouvelable avec énergie nucléaire. Le ministre de la Santé, Léo Scheger, n'est pas parvenu à s'entendre avec les syndicats et l'ordre des médecins lors de la réunion de ce jeudi portant sur le retrait des démissions des médecins hospitaliers du pays. Les syndicats ont rejeté l'offre d'augmentation des salaires de 5 à 8 000 couronnes par mois proposée par le ministre. Ce dernier a promis la semaine dernière que 2 milliards de couronnes, soit 80 millions d'euros supplémentaires, seraient consacrés cette année au salaire du personnel hospitalier. Léo Scheger prévoit cependant ne verser que les trois quarts de cette somme aux médecins, le quart restant étant destiné aux infirmières. Le président du syndicat des médecins a indiqué que cette réduction de 25% des 2 milliards initialement promis était inacceptable. Dans le cadre de l'initiative « Merci, on s'en va » lancée en fin d'année dernière par les syndicats, vous le savez, environ 3800 médecins employés dans le secteur hospitalier ont remis leur démission. Ils devraient quitter leur poste le 1er mars prochain si aucun accord n'est trouvé. L'immense majorité des clients des agences de voyage séjournant actuellement en Égypte devraient rentrer en République tchèque d'ici à dimanche soir. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le président de l'Association des agences de voyage et de tourisme. Certains tchèques ont toutefois choisi de ne pas annuler leur séjour malgré la crise politique et les manifestations de violence en Égypte. 70 personnes se trouvaient ainsi ce jeudi à bord de l'avion Czech Airlines CSA en partance pour l'Égypte. D'autres devraient également s'envoler ce week-end et selon une estimation de l'association des agences, environ 700 touristes tchèques se trouvent encore en Égypte actuellement. 99% d'entre eux devraient être rentrés chez eux dimanche. Économie, la Banque centrale tchèque a annoncé jeudi à Prague avoir maintenu son principal taux directeur à 0,75%, son niveau le plus bas depuis la création de la République tchèque en 1993. Cette décision de la Banque centrale est conforme aux attentes des analystes à Prague. Le récent renforcement du taux de change de la couronne tchèque a rendu la politique monétaire plus stricte. Il n'y a donc pas de raison d'augmenter les taux à l'heure actuelle. C'est ce qu'a commenté David Marek, l'analyste en chef de la société financière Patria Finance. Selon l'agence France Presse, plusieurs eurodéputés ont dénoncé mercredi une tentative franco-tchèque de faire adopter au plus haut niveau de l'Union une déclaration faisant de l'énergie nucléaire un moyen de lutte contre le changement climatique qui nuirait, selon eux, aux énergies renouvelables. Si les amendements franco-tchèques sont adoptés vendredi lors d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UE à Bruxelles, ce serait une percée décisive en faveur de l'énergie nucléaire qui aurait pour conséquence d'affaiblir indirectement les énergies renouvelables. C'est ce qu'a souligné l'eurodéputé luxembourgeois Claude Turmes, spécialiste de ces questions chez les Verts. Plusieurs pays, dont le Luxembourg et l'Irlande, s'y sont opposés lors d'une réunion ce lundi des ministres des Affaires européennes. En marge de cette réunion, Laurent Wauquiez, ministre français des Affaires européennes, et le ministre tchèque Karel Schwarzenberg ont adopté une déclaration commune. Ils y expriment notamment leur soutien aux énergies sobres en carbone et rappellent que l'énergie nucléaire représente une source d'énergie décarbonée, répondant à la fois à la rationalité économique et aux objectifs de lutte contre le changement climatique. Fin de citation. On termine ce bulletin avec la météo comme d'habitude, avec un temps qui reste couvert sur l'ensemble du territoire tchèque et qui devrait le rester également vendredi, avec des températures qui restent stables autour de 0 degré et quelques chutes de neige sont prévues comme à Prague dans l'après-midi de ce jeudi. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin. Dans un instant, Guillaume Narguet pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord une nouvelle affaire dans le secteur de la santé. Au cœur de cette affaire, corruption et clientélisme qui seraient pratiques courantes selon le directeur du plus grand hôpital du pays. Et puis nous parlerons d'un événement plus réjouissant. Une conférence internationale des aumôniers des armées de l'OTAN se tient cette semaine à Prague. Plus de précisions sur cette rencontre dans quelques instants. Mais avant cela, nous vous souhaitons une très bonne écoute à toutes et à tous. Des appels d'offres dont les résultats sont connus d'avance et des patients argentés et influents auprès des politiques dont il convient de s'occuper en priorité et avec un soin tout particulier. Une vidéo placée mardi sur le site YouTube provoque un nouveau scandale dans les médias tchèques. Cette vidéo montre le directeur du plus grand hôpital du pays expliquant à son personnel les pratiques de corruption et de protection indispensables au bon fonctionnement financier de l'hôpital.
Vkrutce zdravotníků ze strany dodavatelů, páni přednostové.
Pour ce qui est de la corruption du personnel de la santé par le fournisseur, tous les directeurs et les médecins-chefs des différents services de l'hôpital savent très bien comment les choses fonctionnent. Nous lançons parfois des appels d'offres, mais ceci se déroule de la façon suivante. Il y a par exemple 5 entreprises intéressées pour nous fournir du matériel. On convient alors de la démarche suivante. L'entreprise A participe à l'appel d'offres. Les entreprises B et C participent également. L'entreprise D remporte la appel d'offres et l'entreprise E participe. Et la fois suivante, on change les rôles.
Directeur de l'hôpital universitaire de Motol à Prague, Miloslav Ludvík a été très explicite dans son discours prononcé en fin d'année dernière devant plus de 200 personnes, parmi lesquelles notamment les responsables des cliniques. C'est ce que montre un des extraits de cette fameuse vidéo qui provoque aujourd'hui de nouvelles vagues dans un secteur de la santé déjà fortement secoué depuis plusieurs mois par la menace de départ massif des médecins hospitaliers mécontents de leurs conditions salariales. S'il évoque une manipulation, le directeur de l'hôpital a cependant reconnu que ce montage n'était pas le fruit d'une caméra cachée. Plus loin, Miloslav Ludvík parle également d'un dur lobby indispensable dans les plus hautes sphères de l'État. Ce lobby aurait ainsi notamment permis à l'hôpital d'obtenir plusieurs milliards de couronnes il y a quelques années pour le financement des travaux de rénovation et de modernisation de certains bâtiments et services. Le directeur de l'hôpital évoque également la nécessité de protéger et de privilégier certains patients de façon à donner une bonne image de l'établissement. Autant de révélations qui ont abouti à l'éclatement d'une nouvelle affaire dont le ministre de la Santé, Leo Heger, ne se soucie cependant guère pour l'heure.
Je pense que ce n'est pas une raison suffisante pour réclamer la démission du directeur. La façon d'obtenir et de gagner de l'argent est bien entendu un aspect important. C'est pourquoi il convient de placer la politique d'investissement dans un cadre rationnel à l'égard des influences politiques et de distribuer l'argent selon des critères concrets établis préalablement.
Par la voix de son porte-parole, le ministère de la Santé a toutefois rappelé qu'il considérait la lutte contre la corruption et le clientélisme comme une de ses priorités et qu'il entendait par conséquent exiger des explications au directeur de l'hôpital de Motol. Reste à savoir si les déclarations de ce dernier sont vraiment scandaleuses ou ne sont que la confirmation de pratiques tout à fait courantes. Jusqu'à vendredi, se déroule à Prague la 22e conférence internationale des aumôniers militaires de l'OTAN. Quel est le rôle d'un aumônier dans l'armée? Quelles confessions sont représentées? Les détails tout de suite avec Anna Kubichta.
La conférence organisée à Prague rassemble plus de 80 délégués issus de 37 pays différents. Les principales grandes religions y sont représentées avec la présence d'aumôniers chrétiens, juifs, musulmans, mais aussi bouddhistes. Quel est l'objectif de cette conférence et sa signification pour l'armée tchèque en particulier? Réponse d'Alexandre Vondra, ministre de la Défense, au micro de notre collègue de la rédaction anglaise, Jan Richter.
C'est très important car le service religieux a été réintroduit dans l'armée il y a 20 ans. C'est donc une occasion unique pour les aumôniers d'échanger sur leur expérience et pas seulement pour l'armée tchèque mais pour tous les aumôniers. Prague accueille tous les membres de l'OTAN, or elle est un carrefour spirituel historique. Pensez au baroque, à la tradition protestante, mais aussi juive. C'est l'endroit idéal pour discuter ensemble de questions qui sont importantes pour l'armée, un métier qui fait des victimes. C'est pour cette raison que le rôle des aumôniers est essentiel.
Jan Kozler est l'aumônier militaire principal des forces armées tchèques issues de l'église Hussite tchécoslovaque. Il souligne ce qui, pour lui, fait la base de son quotidien auprès des soldats.
Tak já bych chtěl především říct, že vojenský kaplan v podstatě je v takové úloze neexpertní. Jo? Je to člověk, který je...
Je tiens à dire que l'aumônier militaire n'a pas un rôle d'expert. C'est quelqu'un qui est là pour partager avec les soldats leur joie et leur peine. Il n'est pas là pour catégoriser les problèmes. Le type de choses à gérer pour les soldats est en lien avec des situations où ils se retrouvent à des milliers de kilomètres loin de chez eux, sans possibilité de revenir si jamais il y a un problème ou leur vie est en danger, etc. Donc l'éventail des thèmes abordés lors de discussions avec un aumônier est très grand.
Témat nebo záležitostí, které vojáci zmiňují v rozhovoru s kaplanem, je obrovská.
Les questions de foi et de religion ne font pas partie des prérogatives de l'aumônier de l'armée tchèque, une particularité que détaille Jan Kozler.
Znamená to především to, že český vojenský kaplan není člověkem, který přichází sloužit.
Cela signifie que l'aumônier tchèque ne sert pas uniquement les personnes croyantes. C'est un service qui est destiné à tout le monde, sans exception. Et si une dimension religieuse est abordée dans le cadre de la discussion entre l'aumônier et le soldat, c'est uniquement parce que le soldat veut en parler. Mais ce n'est pas l'initiative de l'aumônier.
Vždycky je to na základě toho, že ten voják o to požádá, nikoli že by ten kaplan to navrhl.
L'aumônier militaire en tant que conseiller éthique, c'est le thème de la conférence qui se déroule cette semaine à Prague. Parmi les aumôniers étrangers invités à la conférence, un imam issu des rangs de l'armée néerlandaise. À la question de savoir s'il n'y a pas conflit d'intérêt pour un aumônier musulman de servir dans les rangs d'une armée qui participe à la guerre en Afghanistan, Ali Edawadi répond.
No, for me it's no conflict because I'm a chaplain, I don't fight.
Pour moi, il n'y a pas de conflit parce que je suis un aumônier, je ne me bats pas. Mais évidemment, je parle avec les soldats, particulièrement les musulmans. Vous savez, quand vous commencez à travailler pour l'armée, que ce soit l'armée néerlandaise ou tchèque, vous y êtes en tant que citoyen néerlandais ou tchèque. En tant que musulman, je suis arrivé aux Pays-Bas à l'âge de 7 ans, mais je me sens citoyen néerlandais. J'ai plus de lien avec les Pays-Bas qu'avec le Maroc, par exemple, ou tout autre pays musulman. Donc, je suis un citoyen néerlandais.
Cette conférence qui rassemble les aumôniers des différentes armées membres de l'OTAN s'achèvera vendredi.
C'est la fin de ces faits événements. Le programme en français de Radio Prague se poursuit avec ce jeudi la rubrique Tchèques célèbres et moins célèbres. Les Tchèques, qu'ils soient justement célèbres ou moins célèbres, qu'ils la connaissent ou non, ont pris l'habitude de l'appeler Madame Olga, Pani Olga. La première épouse de l'ancien président Václav Havel est décédée il y a 15 ans, le 27 janvier 1996, à l'âge de 62 ans. Elle restera gravée dans la mémoire des gens comme une dame à la belle chevelure blanche et bouclée, mince, élégante, habillée de noir et étant presque toujours aux côtés de son mari. Magdalena Rosinkova dresse le portrait de Olga Havlova.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Je suis originaire de Žižkov. Ma mère et mon père étaient ouvriers. Quand j'ai eu 6 ans, ma mère a divorcé de mon père et elle nous a élevés toutes seules. J'ai un frère et une sœur. J'ai presque grandi dans la rue. J'étais sauvage et non obéissante. Je n'acceptais aucune autorité. Je lisais les livres que je voulais. J'allais voir des films interdits aux enfants. En même temps, j'ai dû m'occuper des enfants de ma sœur de 11 ans, mon aînée. Ils étaient 5 et moi, dès l'âge de 10 ans, je savais les laver, les faire manger, leur changer les couches, les distraire. D'un côté, la liberté absolue. De l'autre, une grande responsabilité. Nous sommes une grande famille, mais c'est bien d'avoir une grande famille. Ma famille et les Havel, nous sommes très unis.
C'est ainsi qu'Olga Havlova évoquait son enfance dans une interview qu'elle a accordée à l'écrivaine Eva Kanturkova en 1979 au café Slavia, alors que Václav Havel se trouvait en prison. Un des rares entretiens d'Olga qui n'aimait pas parler d'elle-même, être au centre de l'attention. Le curriculum vitae d'Olga Havlova, Nešplíchalová, est suffisamment connu. Une fille issue d'un milieu populaire, ouvrier, elle-même ouvrière et autodidacte dans plusieurs domaines, fait connaissance au fameux Café Slavia de Prague d'un jeune homme brillant, doué pour la littérature, qui a baigné dans une ambiance familiale totalement différente, intellectuelle et bourgeoise. Amoureux pendant 8 ans, ils se marient et vivent côte à côte des péripéties incroyables, d'abord comme opposants au régime totalitaire, ensuite comme couple présidentiel. L'écrivain journaliste Pavel Kosakik rappelle dans sa remarquable biographie d'Olga Havlova, parue en 1997 aux éditions Mlada Afronta, ce qu'Olga constatait elle-même. C'est elle, en réalité, qui a donné le goût du théâtre à Václav Havel, intéressé au début davantage par la philosophie et la poésie. La mère d'Olga était une passionnée de théâtre, d'opéra et d'opérette. Olga, elle-même, faisait du théâtre amateur et prenait même des cours privés de théâtre, sans pour autant envisager une carrière de comédienne. Pavel Kosatik écrit.
L'exhibition qui maintient la plupart des comédiens sur scène n'était pas du tout dans sa nature. Dans sa vie, elle se refusait à accepter des rôles. Le seul rôle de sa vie, c'était d'être Olga. Un tel caractère ne prédispose vraiment pas au métier d'acteur. Ce dernier a pu l'intéresser lorsqu'il l'amusait, la distrayait, mais quand c'est la nécessité de s'appliquer plus sérieusement, Olga a changé de voix.
Le dramaturge Joseph Topol, les écrivains et poètes Joseph Herschel, Jan Zabrana, Jan Vladislav, Viola Fischerova, ils font tous partie du fameux cercle littéraire qui s'est formé dans les années 1950 autour de Václav Havel et dont Olga faisait désormais partie. Dans les années 60, lorsqu'elle travaille comme ouvreuse au théâtre Divadlo na Zábradlí, ce même petit théâtre pragois pour lequel Havel écrira ses pièces à succès, d'autres personnalités culturelles élargissent ce cercle d'amis, notamment le metteur en scène Jan Grossman, le scénographe et plasticien Libor Fára et sa femme Anna Fárová, historienne de la photographie aux origines franco-tchèques, qui fera découvrir au public local, entre autres, Henri Cartier-Bresson. Cet univers fascinant, inspirant et excitant, univers de la culture dans le sens le plus large du terme, où l'art non officiel occupait une place importante, cet univers inconnu auparavant était désormais grand ouvert à Olga, et elle a su pleinement en profiter. Selon Pavel Kostatik, le fait de rejoindre Václav Havel comme compagnon de vie et artiste, le fait de passer d'une couche sociale à une autre, ce changement a été peut-être plus radical pour Olga que le passage de la dissidence au château de Prague en 1989. Dans une interview réalisée en décembre 1989 par l'écrivain canadien Paul Wilson, Olga Havlova se souvient.
L'ambiance au théâtre était magnifique. Les femmes des dramaturges venaient souvent. Beaucoup de gens assistaient aux répétitions. Je n'étais pas ce genre d'ouvreuse que l'on voit dans certains films occidentaux où les spectateurs leur donnent un pourboire et les ignorent ensuite. Non, au théâtre na Zábradlí, c'était tout autre chose. Il y avait un esprit d'amitié.
Réservée, silencieuse, un peu distante, telle était, paraît-il, Olga Havlova au tout début au sein de la bande à Havel. Complexée, comme on pourrait le croire, pas du tout. Très vite, les écrivains, plasticiens, musiciens, hommes et femmes de théâtre reconnaîtront en elle une fine observatrice, intelligente, capable de jugements sincères et précis, souvent teintés d'humour et ironie, qu'ils seront toujours curieux d'entendre. Olga Havlova occupera cette même place dans les années 70 et 80 au sein du milieu dissident. Toujours terre à terre, pratique, réaliste, agissant sans nostalgie ni sentimentalisme, et c'est au fil du temps également impliquée dans le mouvement d'opposition comme son mari. Ne serait-ce que par sa manière d'accueillir les gens, adultes et enfants, dans leur maison de campagne à Hradeček, lieu de repos, de travail, de concerts, de spectacles, de vacances pour les enfants des dissidents incarcérés. Par sa manière aussi de soutenir quoi qu'il arrive, Václav Havel, d'être toujours à ses côtés, de le remplacer en quelque sorte lors de ses emprisonnements, d'apporter, comme a dit l'ex-président lui-même, dans Interrogatoire à distance, une correction sobre à ses idées cinglées, un soutien privé à ses aventures publiques. Dans les années 1980, Olga Havlova s'est encore plus engagée de manière indépendante dans les activités d'opposition. Une revue sur le théâtre et une sorte de journal télévisé tourné en vidéo ont été lancés à son initiative et diffusés en sa mise date.
Na zdraví nového českého prezidenta.
Pašku, můžu si s tebou přiťuknout aspoň jako první.
Potkal nás další neštěstí.
Ano.
Reste à savoir où est-ce qu'une personne que tout le monde suppose forte, résistante, plus forte même que les autres, où va-t-elle puiser cette force? Les amis d'Olga Havlova racontent qu'elle aimait marcher des heures et des heures en compagnie de ses chiens, qu'elle adorait chercher des champignons, tricoter, entretenir et embellir la maison de Hradeček, quand le stress devenait insupportable et elle s'y mettait à faire le ménage. Avant comme après la révolution de velours, être utile lui apportait beaucoup de satisfaction. Devenue première dame de l'ex-Tchécoslovaquie, Olga Havlova a fondé le Comité de bonne volonté, une première organisation caritative dans le pays qui avait pour but d'apporter un soutien aux personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, aux personnes discriminées, âgées, vivant dans la solitude, dans la détresse. Évidemment, elle allait elle-même à la rencontre de ces gens. On écoute Milena Černá, directrice du comité.
Byla velmi neformální, byla velmi svobodomyslná.
Olga était une libre penseuse. Dans le comportement d'Olga, il n'y avait rien d'artificiel, de conventionnel. Un jour, on lui a demandé si côtoyer des personnes âgées, malades ou handicapées ne la gênait pas. Elle a répondu « Pas du tout. Ce qui me gêne, c'est de côtoyer des gens qui ont mauvais caractère. » J'ai fait la connaissance d'Olga en 1966, à l'occasion de la première de la pièce de Václav Havel, « Verozumění », le rapport dont vous êtes l'objet au théâtre Nazar Bradley. Depuis, nous nous étions vus assez fréquemment. Je n'habitais pas loin de chez elle, alors nous promenions nos chiens ensemble, par exemple. Nous parlions d'un tas de choses qui nous intéressaient. Olga aimait les vieux films tchèques, elle lisait beaucoup. À l'époque de la perestroïka, nous lisions toutes les deux, avec enthousiasme, les œuvres de la nouvelle vague littéraire russe. Évidemment, dans le milieu dissident, nous ne pouvions pas trop en parler.
On en revient à l'interview où Olga Havlova parlait de son enfance et où elle a résumé inconsciemment sa vie. D'un côté, la liberté absolue, de l'autre côté, une grande responsabilité. Responsabilité qui se manifeste tout simplement par le fait de faire de bonnes choses et de les faire bien. Olga Havlova est décédée il y a 15 ans, et comme de nombreux Tchèques continuent d'appeler Václav Havel « Monsieur le Président », Olga Havlova demeure pour eux la première dame.
C'est donc avec le portrait de Madame Olga, ou si vous préférez Olga Havlova, la première épouse de l'ancien président Václav Havel, que se referme pour aujourd'hui le programme d'actualité de Radio Prague. Merci de votre attention.